Retour sur Alpe 1 dans ce débat des législatives qui nous a mené ce soir dans les Hautes-Alpes sur la première circonscription avec Catherine Assaut pour les Républicains et l'UDI et Pascal Boyer pour La République en marche. On passe à un autre sujet. Alors peut-être on peut faire rapide, mais tout de même on ne peut pas ne pas en parler. A51 et désenclavement, le président Macron écrit dans son livre Révolution pour les infrastructures de transport chaque territoire, de Guéret à Mende en passant parfois Gap. Et Aurillac doit disposer d'au moins un moyen de communication rapide qui relie efficacement avec les villes et les lieux d'activité indispensables à leur économie. Ces infrastructures nécessaires doivent être construites dans les 5 ans. Bon, c'est pas comme si on l'avait pas déjà entendu tout ça. On enlève le nom Macron, on en met un autre et on a l'impression de revenir un petit peu en arrière. Il y a eu un débat autour des déclarations que vous avez faites, Pascal Boyer, sur l'éventualité de faire passer cette déviation dans l'avance. On a entendu le maire de Tallard qui n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Bon, la 51, je vous demanderai d'être direct, synthétique, on va pas refaire tout l'historique. Mais la question est de savoir, est-ce que vous allez vous battre sur ça? Pascal Boyer.
Alors déjà, je voudrais revenir sur le débat de la 51 et avec le maire de Tallard, Monsieur Jean-Michel Arnaud. Donc, il y avait eu un courrier d'envoyé au cours de la campagne des présidentielles par l'équipe La République en marche. Moi, je ne faisais pas partie des instances responsables de La République en marche, donc la responsabilité de cette lettre incombe aux instances de La République en marche. J'ai rencontré
et donc de votre suppléant, si je comprends bien.
Oui, enfin, c'est pas mon suppléant qui l'a envoyé, c'est un autre membre. J'ai rencontré Monsieur Jean-Michel Arnaud. Ouais. Nous avons discuté de ça. Je lui ai envoyé un courrier à ce sujet puisqu'il me l'a demandé. Et donc, il a bien compris que moi, je ne m'étais nullement engagée sur le dossier.
Ça, c'est dit. La 51, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou pas? Et
alors,
sur quelle base, si oui?
Alors, déjà, on ne promet pas. Ça, c'est clair. Ouais. Je ne promettrai pas la 51. Depuis 1969, on parle de la 51 et on ne l'a toujours pas vue. On n'a pas vu le prolongement, plus exactement. On peut essayer de reporter ce dossier, mais on va pas y consacrer tout son temps et toute la mandature. Oui. Moi, ce que je propose, c'est que effectivement, on mobilise des fonds financiers pour améliorer l'accès routier pour le département, notamment sur l'axe Grenoble-Gap, parce que là, effectivement, il y a des études qui ont été faites et il y aurait possibilité de faire des deux fois deux voies sur certains endroits. Mais il y a aussi l'accès via Luz-la-Croix-Haute et vers le sud du département. On sait aussi que de l'argent a été mis par rapport au contrat-plan État-région sur la RD 1075 et donc au niveau aussi de d'Aspre-sur-Bèche et au niveau de la Ragne. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en place, il y a des financements qui ont été mis en place, mais effectivement ça ne suffit pas et il va falloir améliorer cet axe routier. Il y a aussi l'axe
oui.
du rail aussi qui est amélioré.
On va en parler dans un instant, mais j'aimerais avoir la réponse sur ce point de la part de Catherine Assaut, tout en sachant quand même que si ma mémoire est bonne, François Fillon n'est pas tout à fait étranger au fait que la 51 a été enterrée définitivement quand il était au gouvernement. On vous a pas beaucoup entendu protester à ce moment-là.
Il l'a enterré parce qu'il n'y avait pas d'argent, soyons clairs.
Et il n'y avait pas d'autre possibilité que de passer par un financement d'État.
Si, tout à fait. Il y a eu un moment. Alors, vous vouliez pas refaire l'historique de la 51. Oui. On va juste faire ce moment-là. Je ne vais pas reparler de 1997, début de l'enquête publique retirée par Dominique Voynet, parce que voilà, c'était le cadeau de la mariée. Bon, voilà.
Non, on va pas refaire l'histoire. Mais je m'arrête sur.
Vous me demandez pour François Fillon.
Oui, mais je m'arrête sur le dernier
effectivement,
épisode.
Effectivement, François Fillon. Moi, je vous le dis, c'était en négociation, et puisque Henriette Martinez a été en rendez-vous avec Jean-Louis Borloo à l'époque, lui dit, écoute, voilà. Où je dis, tu vas pouvoir l'avoir, mais ça sera peut-être pas maintenant, dans 20 ou 25 ans. Où je dis, tu l'as pas, mais par contre, je peux effectivement mobiliser une enveloppe de temps. Henriette Martinez est redescendue sur la circonscription en disant, j'avais, je crois, à l'époque, il devait y avoir entre 500 et 300 millions, hein, justement, pour l'amélioration des routes. Et puis, le
et
fait
puis,
est qu'à l'époque...
Et puis rien.
Parce qu'au moment où elle est arrivée, tout le monde lui est tombé dessus en disant, c'est la 50 et rien, ou rien, et ben, il n'y a rien eu. Voilà. Donc il arrive maintenant un moment où on est à la croisée des chemins, on ne peut plus vivre asphyxié comme on l'est, je dirais, économiquement, en disant, on mobilise, il faut vraiment qu'on pérennise cette enveloppe, parce que c'est pas le tout de nous dire, vous allez avoir, et puis après, on a que des miettes ou on fait des coupes comme ça peut arriver parce que il peut y avoir des incidences budgétaires.
Pardon, c'est je ne comprends pas, Catherine Asso. On fait quoi?
Pas pour la 51.
Oui,
voilà.
Mais
c'est justement d'avoir une enveloppe pour le désenclavement routier, comme on expliquait sur
franchement. Une enveloppe qui vient de qui?
Vient de l'État.
Oui.
Déjà. De pouvoir destiné ensuite pérenniser les infrastructures et pérenniser aussi les financements du contrat État de plan région, comme on le dit sur les RD 1075, sur le carrefour de Tallard, sur la RN 85, sur la RN 94, voir ce qu'on peut faire sur la RD 942 justement jusqu'à la Bâtie-Neuve. Il y a un certain nombre de points là et avec des points noirs, notamment sur la RD 1075, de mobiliser vraiment une vraie enveloppe au niveau de l'État, bien sûr, en y incluant aussi la région et peut-être les régions également avec Ronald Pauvergne. Donc voilà, il y a tout ça à pouvoir mobiliser, mais véritablement de manière pérenne et surtout de façon à ce que ça aille vite maintenant.
Bon, vous rejoignez au moins sur ce point. La 51 est de côté et on peut passer donc au train. Parce qu'il y a une simple question qui se porte sur le train. Est-ce qu'une simple députée, puisque vous êtes toutes les deux ce soir avec nous, peut faire bouger les lignes au-delà des bons sentiments, évidemment? Parce qu'on en a entendu.
De faire bouger les lignes quand même pour parler de la SNCF.
Vous avez vu?
Ouais.
Je l'ai travaillé toute l'après-midi.
Ouais, hein. Je crois. Ouais.
Merci. Merci de le souligner parce que personne n'a réagi. Non, mais plus sérieusement, tout de même. On a entendu, par exemple, l'ancienne députée qui était montée au front là-dessus, qui avait interrogé l'ancien président de la région à PACA, mais aussi au Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, force est de constater que on a peu d'espoir.
On est mené en bateau, peut-être.
Merci. Je pense que la boucle est bouclée sur les jeux de mots. Si quelqu'un en a encore un dans la salle. Sérieusement, parce que je vous dis, on entend beaucoup de bons sentiments et on est tous d'accord sur l'idée qu'il faudrait aller plus loin et que ça aille mieux et qu'on ait des trains, qu'il n'y ait pas de retard et tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'une simple députée, celle que vous serez peut-être demain, peut faire bouger les lignes?
Soyez une simple députée, je trouve ça déjà...
Vous trouvez ça réducteur? Vous trouvez ça réducteur?
Un peu, je trouve.
C'est vrai?
Oui.
Un député est un citoyen comme les autres aussi?
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
Bon,
donc,
très bien.
Une simple députée des Hautes-Alpes, donc on ne sera pas qu'une seule parce qu'il va y en avoir deux. On a deux circonscriptions et cette ligne traverse les deux.
On a vu le travail passer entre les députés. Ce n'est pas toujours, même quand
c'est
ils sont dans le même camp.
Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai,
ça
mais je pense qu'il faut avoir
bien.
Une action. Il va falloir avoir une action collective sur l'ensemble des partenaires liés à la ligne des Alpes et à la desserte ferroviaire, que ce soit les régions, que ce soit la SNCF, hein, pour savoir quelle est effectivement sa stratégie en ce qui concerne notre ligne des Alpes, parce qu'elle est en train de se dégrader de jour en jour. Quand on remplace des trains par des cars, on ne ferait pas mieux, effectivement, pour décourager
soyons
les usagers
concrets.
De prendre... De
soyons
prendre,
concrets. Soyons concrets, Catherine Asso. Qu'est-ce que une, non pas simple députée, mais une ou deux députés ensemble peuvent faire pour le train? Est-ce qu'il y a des possibilités réellement?
Ah oui, il y a des possibilités.
Qui sont lesquelles?
De mettre le point sur la table sur la SNCF en disant maintenant, vous nous
lobbying.
Pérennisez. Comment?
C'est du lobbying, puisque la réponse est.
Ah oui, tout à fait.
Bon, du lobbying d'un côté, Pascal Boyer.
Bah écoutez,
du lobbying aussi.
Je pense qu'on a l'exemple, de Joël Giraud qui, œuvre là sur ce problème depuis des années et qui a réussi à nous maintenir la ligne des Alpes jusqu'en 2019. Joël Giraud donc est un fervent défenseur du rail. Effectivement, il y aura deux députés qui seront deux défenseurs du rail sur les Hautes-Alpes si La République En Marche est gagnante à 100% sur les Hautes-Alpes.
Bon, pour que le train nous gagne, il faut travailler avec Joël Giraud, quoi.
Voilà. Si
j'ai compris, y compris
on
sur la première
d'accord.
circonscription. Alors, on passe à un autre sujet et je passe la parole à Lionel Arcet-Monceau.
Oui, on va parler de l'accueil des migrants dans notre département puisque la situation dans les Hautes-Alpes est devenue assez catastrophique avec notamment un afflux de migrants vers Briançon. Des mineurs de plus en plus nombreux, des services sociaux et des bénévoles dévoués, ou ultra dévoués mais débordés, et des migrants qui font la grève de la faim aujourd'hui à Briançon, hier à Embrun. Qu'est-ce que concrètement, Pascal Boyer, vous pouvez faire pour contrer cette situation et arriver à remédier à cette situation dramatique?
Moi, je pense qu'il faut faire remonter au plus vite la situation auprès du président de la République et du ministre en charge.
A priori, c'est le travail du préfet. On peut supposer qu'il le fait.
Oui, aussi. Donc, le préfet a appliqué la directive Dublin 3.
Avec raison.
Il l'a appliqué.
Oui, c'est pas tout à fait une réponse, mais.
Ah oui, mais.
C'est votre sentiment,
Que dire? Il l'a appliqué. Il l'a appliqué.
Et vous en pensez quoi?
Bah, moi, j'en pense que, de toute manière, c'est le représentant de la loi et que.
D'accord, voilà, on n'aura pas de réponse.
Dans le département.
D'accord, on n'aura pas de réponse.
Okay. Non, mais simplement, par rapport à la directive Dublin 3, on précise quand même que c'est la demande d'asile qui ne sera pas traitée en France, mais qui est traitée dans le premier pays d'enregistrement, sauf pour ceux qui viennent de Calais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question à se poser sur le temps d'attente de ces demandes d'asile?
Tout à fait. Donc, nous proposons de diminuer ces temps d'attente.
Et comment ?
En accélérant la procédure, en mettant les moyens. Donc,
mais l'OFPRA est aussi ultra dévoué, mais ultra débordé.
Ultra débordé.
Ça veut dire quoi ? Vous allez embaucher au niveau de... les services sociaux
Non, pas les services sociaux, c'est de l'OFPRA. Après, moi, voilà, nous arrivons, nous sommes pas encore élus, donc je peux pas vous dire quels moyens seront mis en place à ce niveau-là. Mais de toute manière, nous avons la volonté d'accélérer la procédure en la ramenant à 6 à 8 semaines, alors que pour l'instant, je pense que malheureusement, les migrants sont obligés d'attendre plusieurs mois avant d'avoir une réponse. Moi, je voudrais aussi saluer tout le travail des associations, que, en étant conseillère départementale, je suis en relation directe avec eux, pour tout le travail qu'ils effectuent sur le département. Et Dieu sait que c'est bien compliqué pour eux, parce que effectivement, ils ont une baisse de subvention, quand même, il faut le reconnaître, et ils ont de plus en plus de demandes à ce niveau-là.
Bien. Même question, évidemment, posée à Catherine Assou.
Ben là, c'est ce constat que l'on peut faire dans les Hautes-Alpes sur l'arrivée des migrants et des réfugiés que l'on se doit d'accueillir, hein, parce que c'est quand même notre tradition d'accueil, voilà, c'est de les accueillir, sauf que là on arrive vraiment dans l'impasse au niveau social. Le Conseil général maintenant est passé à près de 200 mineurs non accompagnés, et encore il y en a d'autres qui arrivent par le train, payés par des billets à Marseille, et qui arrivent là errant dans les Hautes-Alpes, et que le Conseil général essaye de prendre, le Conseil départemental
les prend en charge.
Oui, mais difficilement, parce que les places d'accueil devenant de plus en plus réduites, ça devient vraiment une problématique.
Il faut saluer aussi le rôle et le travail du Conseil départemental.
Je le salue, parce que franchement, c'est arrivé tout d'un coup en disant qu'est-ce que l'on fait de tous ces migrants. En fait, on est arrivé à une impasse, parce que on arrive sur une situation mondiale qui est problématique, il faut bien le dire, où il n'y a rien qui est résolu en ce qui concerne notamment les pays en guerre, parce que c'est la plupart arrivent de pays en guerre ou de pays qui doivent fuir leur pays, comme la Syrie, par rapport à l'État islamique.
Donc, ça veut dire quoi? On déplace le curseur? On règle un problème international avant de régler le problème national?
Il faut régler le problème international. Donc, mais de quelle manière? Avec une défense commune? Avec un commandement uni? Avec une politique de défense commune?
C'est un peu les questions qu'on vous pose.
Oui, tout à fait.
Et c'est quoi les réponses que vous apportez? Ou plutôt le positionnement? Si ce n'est pas les réponses, quel positionnement vous apportez?
Alors, le positionnement, c'est que déjà là, il faut que tout le monde se mette en... Comment dire? Que tout le monde se puisse parler ensemble. Et ce n'est pas facile quand on est 27. Hein, mais il y a un moment aussi, peut-être, qu'il va falloir parler de l'harmonisation de la politique d'asile européenne. Hein. Notamment sur Jacques Toubon, le défenseur des droits, en ce qui concerne le Dublin III et la convention Dublin III, demander la suspension, au moins temporaire, ou alors une application dynamique, parce que dans ce traité, il est prévu aussi que dans le cas de figure d'un mineur ou d'une personne disposant de famille en Europe, qui peuvent demander l'asile là où elle se trouve hors du pays d'entrée. Donc en fait, il y a un déblocage à faire qui n'est pas souvent
mis en application. C'est déjà dans les textes de la directive Dublin III.
Il y a un moment, parlons de l'Angleterre. Quoi. Voilà, on le sait qu'il y a cette diaspora qui essaye de revenir, qui essaye de rejoindre leur famille, et ça devient problématique. Donc il y a un renforcement aussi de l'espace Schengen. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, mais c'est vrai au niveau de l'Union européenne. On l'a vu, Angela Merkel l'a demandé, alors qu'elle, elle demande l'application toujours stricte des règles communes, mais là, elle demande effectivement que ce soit revu. C'est pas pour autant qu'on va sortir de l'Union européenne, c'est vraiment un problème que l'on doit régler, parce que du coup, on se retrouve dans l'impasse, et c'est que ensuite, ça revient dans nos départements. Je dis dans nos départements parce qu'il n'y a pas que les Hautes-Alpes, c'est vraiment sur toute la France entière, notamment pour le règlement de Calais. Et nous, on est frontaliers de l'Italie, quoi, aussi. Donc voilà, il y a ce problème qui se pose, et l'afflux de migrants qui va arriver encore nombreux.
Merci, mesdames, pour vos points de vue sur cette question. Et dans un instant, on poursuivra ce débat. Hein. Nouveau thème et nouveau sujet abordé juste après la pause. Restez avec nous sur Alpe 1, débat entre Catherine Assou et Pascal Boyer. À tout de suite.